Les coqs chantent et jour paraît, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Bonjour mesdames.
Entrez.
C'est bon?
Allez.
Ok. Bonjour monsieur le ministre.
On s'est mis tout à l'heure là.
Et oui, mais comme on m'a dit d'attendre. D'accord.
Avec six grandes zones agroécologiques, le Sénégal ne manque pas d'atouts en matière de production agricole. Pour autant, le Sénégal demeure un importateur net de produits alimentaires, la facture céréalière étant particulièrement élevée. Comment sortir de cette situation? Nous en avons discuté avec la délégation sénégalaise au Salon international de l'agriculture de Paris, édition 2020. La population rurale représentait 55% de la population totale du Sénégal en 2013. Le secteur agriculture et pêche est un secteur économique important. Il contribue à 14% du PIB et occupe environ 50% de la population active. Malgré cela, plus de la moitié des ruraux, en général de très petits paysans pratiquant une agriculture de subsistance, vivent sous le seuil de pauvreté et 30% d'entre eux sont affectés par l'insécurité alimentaire. Il s'agit en majorité d'une agriculture saisonnière et pluviale, centrée sur la période d'hivernage. État des lieux avec le professeur Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement Rural.
En matière d'eau, de soleil, de terre, le Sénégal a un potentiel que nous n'avons pas encore tout exploité. Nous avons la vallée du fleuve Sénégal, nous avons le fleuve Casamance, nous avons des cours d'eau partout. On a une réserve d'eau importante et un pays plat où il fait bon de faire l'agriculture. Donc oui, le Sénégal a un énorme potentiel agricole. Et donc, au Sénégal aussi, nous encourageons nos jeunes qui sont sortis des écoles de formation, des grandes écoles sénégalaises comme l'école polytechnique et autres, de s'intéresser à l'agriculture, de nous permettre d'apporter l'innovation technologique dans l'agriculture. Nous avons une population jeune, mais pour que les jeunes soient dans l'agriculture, il faut qu'ils y aillent avec des moyens modernes. Et c'est pour cela que nous pensons que le Sénégal aussi a un fort potentiel humain pour développer une agriculture moderne, une agriculture productive, durable, porteur de développement.
Ben, c'est normal que le monde politique ait ce souci. Parce que si vous regardez les villes africaines, si on n'est pas fils de paysan, on est petit-fils de paysan.
Oui, moi-même, quand je vous parle, moi, je suis pas petit-fils de paysan, je suis fils de paysan. Le ministre de l'Agriculture de l'Équipement Rural du Sénégal est fils de paysan. Je suis professeur d'université, c'est ça mon métier, mais je suis fils de paysan. J'étais même paysan quand j'étais enfant. Donc, c'est pour cela que nous pensons que c'est facile pour nous de connecter tout le monde au niveau de l'agriculture parce que, comme vous dites, si c'est pas votre papa, c'est votre grand-parent qui y était. Donc, c'est pas quelque chose qui nous est étranger. On peut pas dire qu'il y a quelqu'un au Sénégal qui n'a jamais, par exemple, connu un agriculteur dans sa vie.
Monsieur le ministre, j'ai parcouru le stand du Sénégal. D'abord, il est vaste, mais en matière de transformation de produits agricoles, il y a du tout, il y a quasiment tout.
Ben oui, comme je vous ai dit, notre transformation agricole est dynamique parce que l'Afrique doit cesser aussi d'être exportatrice de matières premières. Nous devons transformer nos produits agricoles sur place. C'est ce qui donne plus de plus-value. Et je pense que dans tous les domaines au Sénégal, ce que nous voulons, c'est une maîtrise de la chaîne de valeur, des chaînes de valeur. C'est-à-dire, comme on dit, du tracteur jusqu'à la fourchette, que ça soit maîtrisé. Nous sommes en train de créer des interprofessions dans tous les domaines pour permettre à notre producteurs d'être outillés, de pouvoir faire en sorte qu'il y ait la transformation sur place pour qu'on puisse exporter des produits finis qui sont, comme tout le monde le sait, qui sont plus rentables pour un pays que d'exporter des produits juste primaires.
L'interprofession, ça veut dire on travaille ensemble et on met les forces ensemble, les savoir-faire ensemble. Et s'il y a une innovation qu'on doit apprendre, on le fait ensemble.
C'est ça l'interprofession, c'est gérer notre activité ensemble.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur.
L'une des insuffisances de l'agriculture dans les pays africains, c'est le secteur du financement. Il faut des investissements pour s'affranchir d'une agriculture saisonnière et pluviale, centrée sur la période d'hivernage. Or, le paysan dans son village a déjà du mal à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pour le cas du Sénégal, il y a eu la création de la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal en 1984. Après des hauts et des bas, cette Caisse nationale de crédit agricole devient la Banque agricole en juillet 2019 avec 40 agences et bureaux sur l'ensemble du territoire national. Pourquoi une telle évolution? C'est ce que nous explique Malick Ndiaye, directeur général de la Banque agricole du Sénégal.
Elle est née depuis 1984, donc ça fait à peu près 36 ans qu'elle existe, et en particulier pour s'occuper du financement du secteur primaire. Je vous parle en tant que banquier, mais je vous parle aussi en tant qu'agronome de formation. J'ai été formé comme agroéconomiste. Et dans mon équipe, il y a plusieurs agronomes, plusieurs techniciens de l'agriculture. Donc, en réponse justement à cette préoccupation, comprendre le producteur, le petit producteur, l'éleveur, le pêcheur, pour prendre en charge les préoccupations de nos populations du terroir.
Y compris en langue locale.
Oui, en langue locale, oui. Nous sommes, moi je suis Wolof.
Vous êtes des enfants du terroir.
Je suis enfant du terroir. D'autres sont Alpoular, d'autres sont Manding, d'autres sont Peul, d'autres sont tout couleur, etc. Et donc ça, c'est important, justement, de pouvoir dialoguer avec, de communiquer, j'allais dire, avec le producteur, l'éleveur et le pasteur. C'est important.
Mais vous devez faire de grandes gymnastiques, parce que moi, je vis en Europe, j'ai un compte bancaire, mais les mécanismes bancaires, je ne les connais pas tous. Comment vous arrivez à expliquer ça dans un village?
Oui, c'est un gros défi encore une fois. Il faut savoir simplement que le contact est renouvelé systématiquement. Nous avons par exemple comme habitude de participer aux assemblées générales bilan ou aux assemblées générales de renouvellement des instances, des groupements, des unions de producteurs, etc. Et cela nous donne l'occasion effectivement de dialoguer et d'expliciter un peu le besoin de transparence que nous avons, mais aussi la nécessité d'avoir des organisations de producteurs capables de répondre aux défis qui leur sont posés en termes de soumettre des requêtes de qualité, comprendre les préoccupations de la banque et aussi comprendre comment les mécanismes que nous mettons en place pour gérer tout ce qui est plan de financement, tout ce qui est remboursement, tout ce qui est conscient de stock de remboursement. Donc, mais rassurez-vous, dans la vallée du fleuve Sénégal où nous sommes très très présents, les acteurs producteurs comprennent bien le langage de la banque.
Je suis un éleveur, j'ai besoin du financement et je viens vous voir. Comment ça se passe?
Si vous êtes éleveur, vous venez avec un projet, normalement.
Il faut d'abord que je sache ce que je veux faire.
Ah oui, naturellement, nous attendons bien de l'emprunteur qu'il connaisse bien son projet. S'il ne peut pas le formaliser, il faut que prenne la tâche des services techniques. Les inspecteurs d'élevage dans les régions sont là pour ça. Il y a même à un niveau beaucoup plus déconcentré, au niveau du département, des techniciens, au niveau de l'arrondissement, des ce qu'on appelle les centres d'expansion polyvalentes. Il y a des techniciens de l'agriculture qui sont là pour accompagner les porteurs de projets, pour les aider à formaliser, à évaluer, à au moins avoir les rudiments nécessaires pour que je puisse, moi, recevoir une requête de financement.
Là, les services techniques m'ont aidé, j'ai formalisé mon projet, je viens vous voir.
Oui, quand vous venez me voir maintenant, mon travail consistera à faire ce qu'on appelle l'analyse du projet, sur la qualité du projet. Est-ce que vous êtes dans un secteur qui est éligible?
Éligible, ça veut dire si vous pouvez me financer ou pas.
Oui, parce que voilà, il est capable de générer suffisamment de rentabilité pour pouvoir faire face à la fois aux charges du projet et les intérêts bancaires. Je considère que ce projet-là, il est rentable et je peux le financer.
Alors donc, vous me financez, mais vous m'expliquez aussi les échéances de remboursement.
Naturellement, le financement, quand il est décidé, il est assorti d'un certain nombre de conditions. Et ces conditions sont notifiées à l'emprunteur qui doit les accepter d'abord. Parce qu'il est important que l'emprunteur sache dans quoi il s'engage et comment il va pouvoir s'organiser pour respecter les modalités de remboursement de la dette une fois que le crédit est débloqué.
Au village, si moi j'emprunte 10 000 francs, je rembourse 10 000 francs. Alors, le banquier a besoin des intérêts pour financer son activité. Est-ce que ça, c'est compréhensible partout?
Disons que tout le monde comprend que la banque ne fait pas de la subvention. Ça veut dire que tout le monde comprend que la banque fait des prêts, et les prêts, il y a des intérêts.
Alors, une dernière question, vous avez mentionné le risque agricole.
Le risque agricole, il est là, effectivement, on vit avec, mais nous sommes en train d'innover. Innover pour aller dans le sens d'adresser ces risques climatiques, d'une part parce que nous avons conscience qu'ils pèsent lourdement sur la capacité et sur la résilience des agriculteurs à rebondir une fois que le choc est là. Et nous le faisons aujourd'hui avec nos partenaires de la Compagnie nationale d'assurance agricole avec qui nous sommes en partenariat pour effectivement faire en sorte que nos producteurs souscrivent des polices d'assurance quand ils sont dans le domaine de la production végétale mais aussi dans le domaine de l'élevage.
Si je vous demande combien de clients vous avez aujourd'hui dans le monde agricole, c'est un secret ou pas?
Non, ce n'est pas un secret. Nous avons une clientèle qui est assez diversifiée. Nous avons au Sénégal l'habitude de travailler avec les groupements d'intérêts économiques. Donc c'est un ensemble de producteurs regroupés dans une entité collective que nous gérons en tant que clients. Nous avons aussi dans ce même ordre d'idée des sections villageoises, héritées des coopératives. Nous avons des unions de producteurs qui regroupent l'ensemble de groupements d'intérêts économiques. Nous avons aussi des fédérations. Donc nous avons aussi des individuels. Donc nous avons une kyrielle de profils d'emprunteurs et nous essayons d'adresser tout cela. Aujourd'hui, nous avons effectivement un portefeuille qui peut tourner autour de 100 à 150 000 clients dans le monde agricole.
Ah, c'est l'ensemble des clients que vous appelez un portefeuille?
Oui, c'est l'ensemble des clients que nous appelons un portefeuille. Il y a à côté l'ensemble des PME-PMI qui sont dans la transformation, ceux qui sont dans ou celles qui sont dans l'approvisionnement en intrants, en semences, etc. Donc c'est véritablement le partenaire que nous avons dans ce domaine-là.
Je vous remercie.
Je vous en prie.
L'agriculture doit faire face à des risques climatiques, sanitaires et environnementaux, surtout dans les pays du Sahel où l'essentiel de la production agricole est tributaire de la saison pluvieuse. Dans de telles conditions, les aléas climatiques, la baisse de fertilité des sols et les attaques des ravageurs impactent la production. Dans ce cas, l'organisme financeur a besoin de garanties. C'est la mission de la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal. Comment cela fonctionne au quotidien? Les explications de Djibril Diop, conseiller technique du directeur général de la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal.
C'est une compagnie qui est là pour vraiment accompagner le monde rural, accompagner les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs au Sénégal. Cette compagnie a été créée pour sécuriser le risque agricole. Comme avec les changements climatiques, il y a une précarité, on a cru bon de mettre en toile de fond cet instrument pour indemniser ces acteurs qui peuvent être confrontés parfois à des intempéries en ce qui concerne l'agriculture, mais aussi à la mort du cheptel.
Monsieur Diop, je veux comprendre, par exemple, bon, je sème, jusqu'à la récolte, il y a une inquiétude, il peut y avoir une sécheresse ou une inondation.
Vous savez, l'assurance, sa particularité, c'est indemniser en cas de réalisation d'un sinistre, n'est-ce pas? Et de plus en plus, on se rend compte que le phénomène est récurrent. Beaucoup de gens sèment, mais ne récoltent pas. S'il n'y avait pas l'assurance pour être indemnisé, ce serait difficile pour eux de perpétuer leur activité. Et de plus en plus, on est en link avec la banque agricole, parce que c'est la banque qui finance et l'État procède à des subventions. Si vous avez un financement qui passe par la banque agricole, le taux est moindre par rapport aux autres banques commerciales. Si vous souscrivez également à l'assurance agricole, la prime que vous payez, elle est subventionnée de moitié. Donc toutes ces facilités sont là pour renforcer ces acteurs qui étaient oubliés dans le partage des richesses. Et comme dans nos pays africains, sur 10 personnes actives, les 7 sont dans le secteur primaire, je pense que c'est une sorte de justice sociale.
Thank you.
Monsieur Diop, comment vous avez réussi à expliquer l'idée d'une assurance dans un pays où on vous dit tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu?
C'est vrai, ça c'est des pratiques ou bien des usages qu'on avait venant.
Ou bien on vous dit Graoul.
Graoul, mais c'est à relativiser. Parce que si vous mettez 200 millions dans un terrain pour un cheptel, ou bien pour également avoir, pour cultiver, et si on vous demande juste de payer un faible pourcentage de 2% de ces 200 millions, vous voyez que le jeu en vaut la chandelle.
Ça veut dire que, par exemple, si je veux un prêt, l'État m'accompagne au niveau de la banque agricole. Et si je suis au niveau de la banque agricole, quand je viens voir la CNAS, ça facilite les choses.
Mais tout à fait. Vous avez tout compris et vous avez bien fait des résumés. Je me rends compte que j'ai affaire à un puriste. Hein, parce que vous devez convenir avec moi que sécuriser les risques agricoles doit passer par un financement. Et il m'arrive de recevoir ici des gens qui viennent aux nouvelles. Mais je leur dis, c'est bien de s'adresser à la CNAS. Mais en premier, il faut s'adresser à la banque. Parce que quand la banque vous finance, nous, on vous sécurise en toile de fond. C'est un link institutionnel qui met tout le monde à l'aise. La banque qui prête son argent en toile de fond, il y a une de ses garanties invalidité qui lui facilite le remboursement de ce prêt en cas de décès de cet emprunteur. Il y a également l'agriculteur qui emprunte du semis à la récolte. Il peut avoir une intempérie. S'il y avait une assurance en toile de fond, on l'indemnise à hauteur de ses pertes subies. Donc c'est tout un arsenal d'instruments que les gens maîtrisent de plus en plus et s'agrippent parce que ça réduit la précarité à laquelle ils étaient confrontés.
Bon, on va faire un exercice. J'ai mon cheptel, j'ai besoin d'être assuré chez vous.
Très bien.
Et est-ce que je paye quelque chose?
Ah oui, tout à fait. Je donne un exemple. À Dara, un bovin coûte 200 000 francs. Pour assurer ce bovin, la personne aurait dû payer 8% de 200 000 francs. Ça aurait dû être 16 000 francs. Mais elle paye 8 000 et l'État complète 8 000 par la subvention. Et en cas de mort de l'animal, on l'indemnise à hauteur de 80%. 80% de 200 000, ça fait 160 000. Peut-être que ça ne remplace pas l'animal parce qu'il y a un lien qui lie l'éleveur à l'animal. Mais cette manne peut lui permettre de chercher un autre. Alors qu'avant, quand ça n'existait pas, l'animal meurt, on se dit, ah, c'est la volonté divine.
Aujourd'hui, vous avez combien de clients?
Actuellement, on a 300 000 au Sénégal et on se dit que c'est un substrat sur lequel l'on se base pour passer à l'échelle parce qu'il faut un quadrillage. Parce qu'il ne suffit pas de souscrire seulement. Quand on fait souscrire un éleveur pour son cheptel, on le met en rapport avec un vétérinaire. C'est le vétérinaire qui identifie l'animal à travers un bouclage de ses oreilles. Si vous voyez des boucles jaunes, c'est que ces vaches sont assurées.
Ah, c'est pour ça que je vois les moutons ou les bœufs.
Vous avez tout compris.
Avec des choses à l'oreille.
À l'oreille, c'est des éléments d'identification. Ça permet d'identifier. Et de plus en plus, on est en train également d'y joindre la technologie. Hein, parce qu'il y a un phénomène récurrent au Sénégal, c'est le vol du bétail. Et quand les boucles sont géolocalisées, ça facilite, hein, de pouvoir pister les voleurs.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie et on vous souhaite beaucoup de baraka dans vos activités.
Merci.
Nous étions sur le stand du Sénégal à l'occasion du Salon international de l'agriculture de Paris édition 2020. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission, www.rfi.fr. Pour nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en cherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.
Appelez-nous, expliquez-nous.